Merci. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Jérémy Bonneau, je suis hydrologue en post-doctorat à l'unité Rivervie de l'INRA Lyon. Donc, je voudrais vous présenter le projet Conséquences, qui est un projet de modélisation hydrologique qui a pour objectif d'analyser et de quantifier l'impact de l'urbanisation, du changement climatique, mais aussi de la mise en place des techniques alternatives ou des ouvrages de gestion des eaux pluviales à la source sur les régimes d'écoulement des rivières de l'Ouest lyonnais. Donc c'est un projet qui est financé par l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse et qui s'appuie sur les données expérimentales récoltées dans le cadre de l'OTU, donc de l'Observatoire de terrain en hydrologie urbaine lyonnais. Slide suivante, s'il vous plaît. Merci. Donc l'objectif, donc le projet conséquent, c'est un projet de modélisation hydrologique. Donc on met en place, on développe un outil qui s'appelle J2000P, qui est un modèle hydrologique développé par l'université de Iéna en Allemagne. C'est un modèle hydrologique qui est distribué, semi-distribué, qui est à base physique. Et donc on le met en place sur le ruisseau du Ratier, qui est un ruisseau à 20, une trentaine de kilomètres à l'ouest de Lyon, qui est un ruisseau qui draine un bassin versant de 20 km carrés, avec principalement des forêts à l'amont et surtout des terres agricoles et des zones périurbaines sur le bassin versant, avec des zones urbaines un petit peu plus denses à l'aval. Donc pour répondre à la question de l'impact de l'urbanisation future sur le régime d'écoulement du ruisseau, on s'appuie sur des travaux antérieurs, sur le projet à vue pure, et avait proposé des cartes d'utilisation du sol futures à horizon 2030, donc l'urbanisation de demain, en prenant plusieurs scénarios possibles, donc des scénarios de prolongation de l'étalement urbain, de densification du bâti existant. Donc, on a à disposition plusieurs scénarios d'occupation du sol futur qu'on peut ensuite, avec des outils SIG, discrétiser et s'en servir comme données entrée pour notre modèle. On combine à ça des scénarios climatiques. Oh, non, pardon, c'est toujours sur la. Oh, merci. Donc, on combine à l'occupation du sol des scénarios climatiques. C'est-à-dire qu'on va également se poser la question de l'impact du climat qui change sur le régime d'écoulement du ruisseau. Et comme la plupart des projections, des modélisations climatiques futures, donc à horizon 2030-2060, sont en pas de temps journalier, nous, pour un modèle hydrologique urbain, on a besoin d'un pas de temps plus fin. On travaille avec un modèle horaire. On a un ruisseau qui répond très vite à la pluie. Et donc, on a choisi une approche par perturbation, c'est-à-dire qu'on va perturber nos chroniques présentes, les chroniques 1990-2020, pour obtenir une palette, une gamme de scénarios climatiques futurs. Donc, par exemple, pour l'évapotranspiration, on va construire nous-mêmes des scénarios de réchauffement avec des moyennes de 1, 3, 5 degrés, avec plusieurs évolutions saisonnières possibles. On va ensuite appliquer ces perturbations sur les chroniques horaires présentes, donc sur les données observées, pour obtenir une gamme d'évapotranspiration future. On fait pareil avec les pluies, où on va modifier les pluies les plus intenses, les pluies les moins intenses, et obtenir donc des scénarios climatiques. L'objectif étant de tester la vulnérabilité ou la réponse du bassin versant à des perturbations climatiques. On peut ensuite relier à des projections existantes. Et donc, combiné à tout ça, on développe également des scénarios de gestion des eaux, donc en lien avec les opérationnels. On travaille avec le syndicat de gestion de la rivière locale, où on va essayer de poser la question, face à l'urbanisation et à un climat qui change, comment est-ce qu'on peut gérer les eaux en ville, donc avec des techniques alternatives ou des ouvrages de l'infrastructure verte, des ouvrages de gestion à la source, donc les tranchées infiltrantes, les noues, les toitures végétalisées, où est-ce qu'on peut les mettre? Combien est-ce qu'on peut en installer et donc comment est-ce qu'on peut déconnecter nos surfaces imperméables de sorte à protéger, peut-être même restaurer le régime d'écoulement du ruisseau. Donc là, on s'appuie sur des travaux de l'Écocampus, donc un site de l'OTU à Lyon, où on a développé un petit modèle de techniques alternatives. Donc ça m'amène à la diapo suivante.
Il reste une minute.
Oui, pas de souci, merci. Et donc, c'est un projet en cours depuis un an. Donc, on a construit des scénarios, on est en train de terminer nos scénarios climatiques. On a développé le modèle en incluant donc un module de techniques alternatives dans J2000 qu'on a testé sur les sites du projet Campus. Et donc, on a calé notre modèle sur le climat présent, l'occupation du sol actuel avec une gamme de signatures hydrologiques, donc en s'appuyant sur les travaux de thèse de Ivan Horner. en regardant les réponses des débits d'étiage et plusieurs indicateurs hydrologiques. Et donc, on commence maintenant une phase de simulation et d'analyse des résultats qui nous intéresse, qui est bien, tout à fait enthousiasmante. Voilà, et puis, merci pour votre attention.
Très bien, d'accord, merci. Ben, merci beaucoup. Merci à tous de votre présence. Je vais vous présenter des travaux qui s'inscrivent dans le Pirensen. C'est une étude en plaine alluviale de la Bassée entre l'Aube et principalement la Seine-et-Marne. Donc, le titre, c'est « Dynamique sociétale et évolution des paysages fluviatiles de la Seine sur des exemples de paléochenaux dans la plaine alluviale de la Bassée ». Une action du Pirensen qui est dans sa première année et on s'appuie largement sur des travaux qui ont été commencés auparavant dans le cadre de thèses, de master 2 et de postdoctorat. Et on étudie l'évolution de chenaux sur principalement des anciennes emprises de la Seine. Les objectifs, c'est de proposer d'étudier la paléogéographie de cette zone de la Bassée. Ce qui nous intéresse, c'est la dynamique des paysages et de comprendre un peu le fonctionnement du système Seine pendant et avant les aménagements modernes. Pour comprendre son fonctionnement. Donc, on s'intéresse principalement pour une partie des gens qui travaillent au processus physique de l'évolution de la rivière et on regarde les impacts de ces évolutions sur les sociétés et éventuellement si on a des rétroactions entre les deux. Donc, je vais vous présenter deux exemples qui illustrent notre démarche à différentes échelles de temps où on combine des études sédimentologiques, géomorphologiques, des documents d'archives et quelques traces d'archéologie. Donc, le premier site, c'est un exemple de temps long. Ça se situe à Vimpelle, qui se situe sur le secteur Bray-sur-Seine, La Tombe, dans la plaine alluviale de la Bassée. Et on étudie, donc vous avez un petit carré qui vous montre la zone de Vimpelle, où vous avez un tracé en pointillé bleu qui illustre un tracé qu'on appelle la vieille Seine, donc qui est un ancien chenal qui est partiellement en eau actuellement, mais complètement déconnecté de la Seine actuelle. À l'aide d'analyses de sondages sédimentaires, on a pu mettre en évidence plusieurs choses. Un remplissage globalement hétérogène qui montre une déconnexion du système et des datations qui ont permis de mettre à jour son fonctionnement dans une configuration probablement différente de l'actuelle, avec, étant donné les calculs de débit, un système qui fonctionnait probablement en anabranche. Et on a couplé l'étude sédimentaire. Donc, vous voyez sur la droite une série d'âges de datation de sédiments au radiocarbone qui montrent les phases de remplissage successives de ce chenal, qui montrent qu'il a fonctionné plusieurs fois. Et on l'a couplé avec des analyses d'archives qui montrent en parallèle une déconnexion hydraulique du chenal qui est enregistrée dans les archives. Et ça permet de mettre en évidence les interactions entre le fonctionnement de ce chenal et les sociétés, puisque ces archives montrent l'existence en aval à la ville d'Aiglini d'un port d'un droit de passage qui était perçu par le seigneur. Et donc, ce système était utilisé comme voie de communication, puis il a été comblé au XIVe, XVe siècle, ce qui a probablement provoqué des modifications des axes de transport local. Par la suite, nous allons regarder dans ce système jusqu'à quelle échelle ça peut être impacté. On a étudié d'autres chenaux et en complémentant les analyses du remplissage du chenal. Par exemple, on va essayer de regarder le contexte à la fois sur l'utilisation des sols et sur les indices paléoclimatiques. Donc, on parlait du petit âge glaciaire tout à l'heure. Les premiers résultats semblent montrer qu'on a le signal du petit âge glaciaire qui est enregistré. Donc, on va essayer de reconstituer la paléotempérature à partir de techniques chimiques pour essayer de complémenter ce qui s'est passé à cette époque. Est-ce que vous pouvez mettre en diapo suivante, s'il vous plaît ? Merci beaucoup. Ensuite, je vous montre un autre exemple qui, celui-ci, se trouve, est beaucoup plus récent, c'est au XIXe siècle, sur l'exemple de Noyen-sur-Seine, où vous le voyez à travers des cartes, cadastre de Berthier de 1786, le cadastre napoléonien de 1828, et ensuite une carte topographique à partir des données topographiques de VNF qui étaient interprétées suite à nos observations de terrain. Et donc, ça permet de reconstituer une chronologie avec un recensement de méandres qui a été effectué en 1809 suite à un aménagement par un ingénieur des ponts et chaussées. Et ça, on en a retrouvé la trace. Enfin, c'est Laurence Lestel qui l'a fait à la BNF. Il y a des traces d'archives. Et donc, elles sont suivies dans l'ancienne boucle, un envasement et la création d'un marais, avec donc des conséquences non anticipées
30 secondes.
Des premiers aménagements. Ce qui a conduit à l'aménagement d'une écluse et d'un canal qui ont été nécessaires pour garder la boucle en eau réinvestir l'espace. Je termine juste en mentionnant que le tracé de la Seine ayant changé, le terrain situé au centre s'est retrouvé propriété de l'État. Il a donc été ensuite rétrocédé à la commune par l'État. Et je vous remercie de votre attention.
Bonjour à tous. Moi, c'est Emmanuel Salim et je travaille actuellement, je débute ma troisième année de thèse à l'Université Savoie-Mont-Blanc et mon travail il porte principalement sur l'impact du retrait glaciaire sur les activités touristiques dans les Alpes. Vous pouvez passer à la suivante. Donc, en fait, on part du contexte qui est que les glaciers sont aujourd'hui largement visités à travers les Alpes dans un but touristique. On a plusieurs exemples, comme par exemple la mer de glace en France, ou l'aiguille du Midi, ou le glacier Pasterzee en Autriche, ou encore le Gornergrat ou la Jungfrau York en Suisse. Et face à ça, on a aujourd'hui un changement climatique qui induit un retrait glaciaire très rapide. Les dernières modélisations, elles estiment que dans les Alpes, on aurait entre 60 et 99% du volume total de glace qui aurait disparu d'ici 2100. Et donc, la question principale de ce travail, elle est de savoir comment est-ce que ce retrait glaciaire, eh bien, il va impacter les grands sites touristiques qui sont développés à travers les Alpes. Et donc, pour répondre à cette question principale, on a développé trois grands axes de recherche. Alors, le premier, il porte sur la manière dont les acteurs de ces sites ils vont être impactés par le changement climatique, par le retrait glaciaire, mais pas que, en fait, par tous les processus qui sont liés au changement climatique. Comment est-ce qu'ils sont impactés et comment est-ce qu'ils vont s'adapter à ces changements, donc en termes de capacité d'adaptation et de stratégie d'adaptation. On a un deuxième axe qui porte plutôt sur la manière dont les sites touristiques glaciaires se sont comportés dans le passé, en fait, principalement depuis la fin du petit âge glaciaire. Des fois, on peut remonter un peu avant, comme par exemple à la mer de glace, on remonte jusqu'à 1741. Comment est-ce que ces sites touristiques glaciaires se sont adaptés, ont évolué en lien avec les différentes fluctuations glaciaires qui ont eu lieu depuis la fin du petit âge glaciaire. Et puis le troisième axe, qui est plutôt l'objet du poster aujourd'hui, qui s'intéresse plutôt à la manière dont le retrait glaciaire et le changement climatique vont impacter les comportements des visiteurs. Alors, pour développer ce troisième axe, on peut passer à la diapo suivante. On a mis en place deux types d'enquêtes. Une première plutôt qualitative auprès des six sites que vous pouvez voir sur la carte. Donc, une méthode qualitative, principalement des entretiens semi-directifs, pour essayer de comprendre comment est-ce que l'évolution du paysage est perçue par les visiteurs des sites et aussi quelles sont les motivations des visiteurs qui viennent, et puis une enquête plus quantitative qui porte principalement sur les motivations des visiteurs et qui mesure aussi leur conception du changement climatique, leur perception du changement climatique, la manière dont ils se représentent la nature, etc. Et donc le poster qui est à la diapo suivante, il présente les premiers résultats de ce travail qui ont été menés sur six sites entre France, Suisse et Autriche, et qui montre que la majorité des visiteurs, ils ont toujours une motivation qui est principalement liée aux éléments environnementaux du site, mais également à une nouvelle motivation qu'on appelle last chance tourism, donc l'idée de voir le glacier avant qu'il disparaisse. Et ce qu'on voit, c'est que cette motivation, elle est de plus en plus présente sur tous les sites qu'on a pu enquêter, et qu'au plus cette motivation est forte, au plus la conscience environnementale du visiteur est forte aussi, et au plus la conscience de l'impact de l'homme sur le changement climatique est forte. Et donc, ce qu'on observe, c'est que au plus on a cette motivation, la chance tourism qui est forte, au plus on a des visiteurs qui viennent de loin. Pour la mer de glace, c'est environ 1800 km de moyenne pour voir le glacier avant qu'il disparaisse. Et donc, ça pose des questions après sur le devenir de ces sites et là, c'est les questions de recherche qu'on est en train de développer maintenant, c'est comment est-ce que ces sites qui sont un peu sentinelles du climat et puis qui sont démonstrateurs du changement climatique, eh bien, comment est-ce que ces sites qui peuvent avoir un impact sur la conscience environnementale des visiteurs et sur leur intention de visiter, leur intention d'agir plutôt pour l'environnement dans le futur. Donc sur le poster, vous pourrez trouver un petit QR code qui permet de renvoyer à la publication qu'on vient d'avoir sur ce travail. Et en attendant, bon, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis merci pour votre attention.